Chapitre 25. Journal de Crédule Grand-Duc. Un mois après le drame du Tréport, Nicole Vitral servait à nouveau les clients dans sa friterie ambulante. Elle n'avait pas le choix. Beaucoup trouvèrent curieux, morbide même, qu'elle continue de travailler dans ce cercueil sur roue, dans ce piège de tôle et de gaz qui avait emporté son mari, endormi définitivement sur ce plancher qu'elle continuait à fouler toute la journée. Nicole répondait, avec le sourire,
« On continue bien de vivre dans les maisons où nos proches se sont éteints. On continue de dormir dans les mêmes lits, on déjeune dans les assiettes où ils mangeaient, dans les verres où ils buvaient. Les objets ne sont pas responsables, le camion pas plus qu'un autre. »
J'ai compris des années plus tard qu'au fond d'elle, Nicole aimait ce travail, servir les clients dans le Citroën de type H, sur le front de mer de Dieppe, comme elle l'avait fait pendant des années avec Pierre, même si la fumée de la friture et le mélange d'odeurs dans l'espace confiné lui déchiraient toujours plus les poumons, la faisant tousser à n'en plus finir. Pierre s'était endormi dans ce camion. Il n'en était jamais vraiment sorti, et Nicole, désormais seule, l'était moins dans son magasin ambulant que n'importe où ailleurs, à l'exception du cimetière de Genval, peut-être. Je me suis rapproché de Nicole, de ses petits-enfants, à peu près à ce moment-là, vers le milieu de l'année 1983. Je l'ai rencontré pour la première fois en avril, un matin. Marc était à l'école et Lily dormait. Nicole me barra le pas de sa porte. Je commençais timidement. Crédule, Grand-Duc, détective privé, j'enquête sur...
Je sais qui vous êtes, monsieur Grand-Duc. Des mois que vous fouillez dans le coin. Les nouvelles vont vite par ici, vous savez.
Bien. Au moins, nous allons gagner du temps. Mathilde de Carville m'a engagé pour reprendre de zéro toute l'enquête. Toute l'affaire du crash du Mont Terrible.
J'espère au moins qu'elle vous paie bien pour ça.
Il n'y a pas à se plaindre. C'est plutôt confortable.
Combien ?
Les yeux de Nicole Vitral vibraient. Elle jouait au chat et à la souris avec moi. Pourquoi mentir ? 100 000 francs par an.
Vous auriez pu obtenir plus, beaucoup plus.
Nicole Vitral portait un pull assez fin, gris-bleu, très échancré. Le col en V descendait dans sa gorge. J'étais terriblement troublé. Elle continua sans bouger d'un pouce.
Et qu'est-ce que vous attendez de moi ?
Pouvoir approcher Lily, l'observer, lui parler, la regarder grandir.
Rien que ça.
Je sentais bien que les négociations seraient longues. Je ne savais plus où poser mes yeux, dans l'éclat des siens ou sur sa poitrine. Nicole Vitral tira machinalement son pull vers le haut.
Voyez-vous, je n'ai rien à cacher. Contrairement à ce que vous devez penser, moi aussi, connaître la vérité m'intéresse. Vous avez trouvé quelque chose ?
J'hésitais. Reprenais-je l'avantage ? Pas pour longtemps. Le pull retombait déjà. J'ai suivi beaucoup de pistes, des impasses pour la plupart. Mais j'ai aussi découvert quelques détails troublants. Nicole Vitral sembla hésiter. Ses yeux embrassèrent la rue Pochol.
Mathilde de Carville vous a fait signer quelque chose, comme une clause de confidentialité, d'exclusivité des résultats ?
Non, rien de tout ça. Elle me paie juste pour découvrir une preuve.
Une preuve ? Rien que cela. Je n'ai pas les moyens de payer, mais Mathilde de Carville sait être généreuse pour deux.
Elle sourit et remonta à nouveau son pull.
Donnant, donnant. Entrez prendre un café. Vous allez me raconter tout ça en attendant que Lily se réveille.
Nicole Vitral m'avait fait confiance. Allait comprendre pourquoi. Je n'ignorais pas que je jouais un jeu dangereux. Si jamais je découvrais quelque chose, ma position entre les deux veuves, ou presque, ne serait pas facile à tenir, même si je parvenais à rester neutre. Et c'était de moins en moins le cas. Entre la simplicité de la famille Vitral et le dédain des Carville, il n'y avait pas photo. Les 11 de Carville avaient de l'eau à la place des muscles, Malvina de la vapeur à la place du cerveau, et Mathilde un glaçon à la place du cœur. J'étais leur salarié, leur chien dévoué, mais sans conteste, ma sympathie allait au Vitral. Marc et Lily étaient des gosses adorables. J'avais pris l'habitude de venir les voir assez souvent, au moins à chaque anniversaire de Lily. Je me rendais parfois à Dieppe avec Nazim. Il leur faisait peur avec sa grosse moustache, mais surtout, Nicole me fascinait par son énergie, son humour, son obstination à élever elle-même Marc et Lily. Elle avait tenu bon, elle n'avait pas touché un centime de la cagnotte de Lily sur son compte en banque, la fortune versée par Mathilde de Carville. Nicole était déterminée et fidèle, un petit bout de femme incroyable. Les mois, les années passèrent ainsi. Moi aussi, j'étais fidèle à mon pèlerinage. Il est temps d'en parler. C'est important. Vous n'imaginez pas encore à quel point. Tous les ans, aux alentours du 22 décembre, je retournais sur le Mont Terrible. Je dormais dans un gîte proche, à Clairebief, au bord du Doubs, et je passais du temps là-haut, sur le lieu même du crash. Je restais chaque année au moins quelques heures, à marcher, penser, relire des notes que j'avais prises. Comme si le lieu allait finir par me livrer son secret. J'y allais toujours seul, sans Nazim. Je connaissais désormais chaque chemin, chaque pierre, chaque sapin. Je sentais qu'il fallait que j'apprivoise ce coin de montagne sauvage, qu'il fallait que je prenne le temps de l'écouter au-delà du traumatisme. Comme avec les vitrales, finalement. Vous n'allez sans doute pas me croire, mais cela a fonctionné. La montagne m'a fait confiance. 3 ans après, exactement. 3 pèlerinages plus tard, en décembre 1986. Elle m'a révélé son secret de loin le plus troublant en 18 ans d'enquête. Ce 22 décembre 1986, un orage aussi violent que soudain m'avait surpris, en fin d'après-midi, tout en haut du mont. Pour redescendre, il m'aurait fallu marcher au moins 2 heures sous la pluie et les éclairs. J'ai cherché à trouver un refuge, n'importe quoi, au hasard. Les arbres replantés sur le site du crash étaient bien incapables de me protéger. J'ai marché en aveugle, pendant 1 ou 2 kilomètres, jusqu'à me retrouver nez à nez avec la plus incroyable des découvertes. J'étais trempé. Tout d'abord, j'ai cru à un mauvais rêve, une sorte d'hallucination. Je continuais à progresser dans la boue, l'image de plus en plus nette, bien réelle devant moi. La pluie drue ne comptait plus, mon cœur battait à se rompre. J'avançais à gare jusqu'à la... Marc pesta de dépit. La feuille arrachée s'achevait sur cette dernière ligne. J'avançais à gare jusqu'à là. Il donna un coup de pied énervé dans les graviers devant lui. Les pêcheurs levèrent la tête, surpris, le regard réprobateur. La suite de la phrase se trouvait sur la page suivante du cahier, à 1 heure de RER, dans le coffre blindé d'une consigne de la gare de Lyon, dont lui seul connaissait le code. Marc fourra les feuilles dans sa poche et se leva. Furieux contre lui-même, furieux contre le style alambiqué de grand-duc qui ne pouvait pas écrire les choses simplement et qui prenait un malin plaisir à raconter son enquête comme on structure un roman policier. Il franchit le canal par un petit pont. Les rues de Couvray étaient calmes. Dans l'ombre de Disney City, le charmant village avait quelque chose d'artificiel, comme si lui aussi était bâti en carton-pâte. Un décor. Le chemin des Chauds-Soleils était la première rue à droite, en arrivant dans le village. Un chemin plus qu'une rue, assurément. Sombre, s'enfonçant dans la forêt. Marc s'avança avec méfiance. Qui étaient les Carville, au fond? Des victimes du destin, comme lui? La véritable famille de Lily, comme il l'espérait? Mais aussi les commanditaires du meurtre de son grand-père? Ennemis? Alliés, les deux à la fois? Marc se força à respirer lentement. Il ne fallait pas qu'il hésite. La crise d'agoraphobie pouvait survenir à n'importe quel moment. Pourquoi pas ici, dans ce silence, sous cette verdure? Quelques voitures étaient garées dans l'impasse, plutôt haut de gamme. Mercedes, Saab, Audi. Des grosses cylindrées, à l'exception d'un modèle plus petit. Une Rover Mini, bleue. Marc s'immobilisa, comme si une alerte s'était brusquement déclenchée en lui. Il avait déjà croisé cette voiture, il n'y avait pas si longtemps. Où ? Il ne devait pas être très difficile de s'en souvenir. Marc avait passé presque toute la journée sous terre dans le métro. La seule fois qu'il avait mis le nez dehors, c'était ici, à Couvray et chez Grand-Duc. Une main se posa sur son épaule. Un tube métallique s'enfonça dans le bas de son dos. Une arme à feu, sans aucun doute. Une voix stridente ajouta encore un peu à l'horreur du moment.
« Tu cherches quelque chose, connard !»